Donc, pour continuer, la troisième illustration de comment la neuropsychologie intégrative peut peut-être renouveler ou offrir une nouvelle perspective sur les approches de neurosciences. Dans les modèles qui parlent de cognition sociale, et ils sont, comme on l'a vu, peu nombreux dans les neurosciences, il y a toujours une séparation assez stricte entre cognition et cognition sociale. Ici, par exemple, c'est un regroupement de psychologues, de neuropsychologues et de neurologues qui ont essayé de faire une batterie d'évaluation pour tester les trois systèmes que je vous ai présentés avant. Et là, de manière intéressante, ils incluent des tâches de décodage émotionnel. Le problème, c'est qu'il y a une séparation. Un problème résiduel, c'est qu'il y a une séparation entre une batterie cognitive, fonction exécutive, mémoire, etc., et une batterie émotionnelle ou de cognition sociale, avec quelques tâches étrangement choisies, mais ce n'est pas le propos, de cognition sociale. Et donc, on a une séparation et quelque chose d'hermétique entre les systèmes. Or, les modèles neuroscientifiques font l'hypothèse que le déficit, ce n'est pas simplement deux systèmes qui sont déficitaires, c'est aussi une interaction entre ces systèmes. Et donc, ce qu'on a voulu faire dans une troisième ligne de recherche, c'est explorer les liens entre les processus cognitifs, émotionnels et sociaux, et plus exactement sur ce que je vais vous présenter, les travaux de la thèse d'Arthur Pabst, comprendre les mécanismes cognitifs qui sont sous-jacents au décodage émotionnel. Comme on l'a déjà dit, le décodage émotionnel, c'est une compétence qui est complexe, et on s'est demandé si c'était quelque chose qui était purement émotionnel ou si ça pouvait être expliqué en partie par des déficits cognitifs sous-jacents. Donc, juste pour vous illustrer ça, si vous devez déterminer quelle est l'émotion présentée en regardant juste le visage de la fille blonde, ce qui va se passer de manière très simplifiée dans votre exploration, c'est que vous allez traiter le stimulus social, vous allez extraire de l'information utile, c'est-à-dire que vous allez explorer la scène et voir au-delà du visage qu'est-ce qui se passe et quel est le contexte, donc exploration de la scène, puis vous allez générer des interprétations possibles, c'est-à-dire soit si on regarde que le visage, finalement, elle est triste potentiellement, ou certainement qu'elle est en train d'attendre de manger son gâteau d'anniversaire, et puis vous allez prendre la décision in fine. Donc c'est un processus où la prise de décision émotionnelle ou sociale passe par différentes étapes, et notamment par une étape attentionnelle. Purement attentionnel, donc là on ne parle pas d'aspect émotionnel, mais qu'est-ce qui se passe au niveau attentionnel? Si vous voulez comprendre ce qui se passe, il faut explorer la scène de manière stratégique au niveau attentionnel. Et donc l'hypothèse qu'on a faite, c'est que le déficit de décodage émotionnel, qui est le bout de chaîne, pourrait être lié à des déficits antérieurs dans l'exploration de la scène visuelle. Donc, on a testé cette hypothèse, encore une fois en eye tracker, avec du décodage émotionnel, c'est-à-dire quelle est la stratégie d'exploration des patients par rapport au sujet sain. Pour faire ça, ben, on sait que chaque émotion est liée à des activations différentes, et donc c'est l'exploration du visage est importante pour identifier ce qui différencie les différentes émotions. Et les zones les plus importantes classiquement dans l'exploration des visages, ce sont les yeux principalement, et puis la bouche et le nez. Regarder les oreilles de quelqu'un n'aide pas, pour dire simplement, à déterminer chez la plupart des gens l'émotion qui est présente sur le visage. Donc, ce qu'on a utilisé, c'est un paradigme de décodage émotionnel classique où on présente des visages aux personnes et leur job est d'identifier l'émotion qui est présente sur ce visage. En parallèle, pendant qu'elle faisait ça, on a mesuré en eye tracker la position de leur regard pour déterminer à quelle fréquence, quel était le temps passé sur les différentes parties du visage, donc les yeux, le nez et la bouche. Et on a comparé donc le temps, le dwell time, le temps de fixation total sur ces différentes parties, en comparaison au temps passé sur le visage. Ça permet d'explorer comment les gens, au-delà de l'output final qui est l'identification de l'émotion, quelle est leur stratégie attentionnelle pour déterminer la présence de l'émotion et pour caractériser l'émotion. Donc, ce qu'on observe, le résultat central, c'est qu'on n'a pas de différence entre HC, c'est contrôle, et SAUD, c'est les patients. On n'a pas de différence majeure pour l'exploration de la bouche et du nez. Mais par contre, on a un déficit. Une réduction massive du temps passé sur les yeux chez ces patients. Donc, ils regardent beaucoup moins les yeux pour prendre leurs décisions. Et on a aussi, de manière plus générale, c'est un peu plus technique, mais on a calculé un indice d'entropie, c'est-à-dire la façon dont les ressources attentionnelles sont utilisées de manière stratégique pour explorer le visage. Est-ce qu'on a une exploration qui est assez systématique? Je regarde toujours les yeux, je regarde la bouche, je regarde le nez. Ou est-ce qu'on a quelque chose de beaucoup plus random? Et on observe que chez les patients, l'exploration est beaucoup plus aléatoire ou beaucoup moins stratégique. On ne voit pas de différence entre les différentes émotions, mais par contre, on voit un lien entre la capacité, enfin, le pourcentage de fixation sur les yeux et le pourcentage de bonnes réponses d'identification correcte, c'est-à-dire je suis capable de dire que c'était bien cette émotion qui était présentée sur ce visage. Ce qui laisse à penser, c'est des premiers résultats, mais ce qui laisse à penser qu'en effet, et c'est soutenu par pas mal d'études antérieures, que le temps passé sur les zones pertinentes, et en particulier sur les yeux, est un très bon déterminant de la capacité finale à déterminer l'émotion. Ou en d'autres termes, que la stratégie attentionnelle, donc on n'est pas du tout encore dans le traitement émotionnel ici, la stratégie attentionnelle utilisée pour explorer est prédicteur du jugement émotionnel final. Ce déficit d'exploration visuelle, on l'a comparé quantitativement avec du déficit qui est observé dans d'autres populations. On sait que classiquement, l'exploration visuelle est problématique, notamment les populations avec un trouble autistique ou avec une anxiété sociale forte. Et on voit que cette réduction de l'exploration de la partie liée aux yeux, elle est en fait aussi forte quantitativement chez les patients que dans d'autres troubles, et en particulier dans les troubles autistiques. Donc l'intensité est assez massive. Et puis l'idée de cette étude, c'est de montrer qu'il y a une explication mécanistique, en tout cas cognitive, à un déficit émotionnel. Et si on réfléchit au fait que dans les situations sociales, les patients vont avoir beaucoup moins de tendance à regarder les yeux et donc vont tirer beaucoup moins d'informations des yeux, c'est utile, ça, c'est un problème pour le décodage émotionnel, mais c'est aussi un problème pour plein de situations sociales où, au-delà de l'émotion, l'intention des personnes est aussi importante. Ce n'est pas la même chose, par exemple, d'avoir quelqu'un qui vous regarde. Si vous regardez le reste du visage, vous allez voir qu'il exprime de la colère. Là, il exprime vers vous. Si les yeux regardent ailleurs, l'interprétation est différente, c'est-à-dire que la colère n'est pas forcément vers vous. Donc, explorer les yeux, ce n'est pas simplement identifier l'émotion, c'est aussi identifier vers qui l'émotion se porte et un ensemble de mécanismes de cognition sociale sous-jacents. Donc, globalement, ce qu'on a voulu montrer ici, c'est qu'il y a un déficit de cognition sociale, mais ce déficit pourrait être lié et est lié aussi à un déficit plus basique et plus cognitif sous-jacent, un déficit d'attention, et puis dans une autre série d'études que je ne présenterai pas ici, un déficit plus basique de perception. C'est-à-dire qu'on a montré via des approches en électrophysiologie et en psychophysique que les capacités perceptives juste vraiment basique de perception liée à la voie dorsale, à la voie ventrale, sur base du cortex visuel primaire chez les patients, était déficitaire. Donc globalement, ce sont des gens qui, on les explore en bout de chaîne en condition sociale, mais il y a déjà des déficits basiques de perception, d'extraction du signal visuel, et puis d'attention. Et donc là aussi, ça pose question sur l'interprétation qu'on peut faire des déficits de condition sociale. Voilà encore, donc ça c'était pour illustrer les mécanismes, l'exploration des mécanismes sous-jacents et comment on peut faire le lien entre des systèmes cérébraux, ici les aspects perceptifs, attentionnels et de cognition sociale qui sont souvent séparés. Et puis pour terminer, des questions là-dessus? Oui.
Tu avais dit tout à l'heure que le
je pense que c'est Jessica ce micro. Good move.
Vous avez dit tout à l'heure que les patients qui avaient un trouble de visage de l'alcool avaient plus tendance à penser que les autres avaient des intentions négatives vis-à-vis d'eux. Est-ce que le fait qu'ils évitent le regard, ça pourrait aussi être lié à cette forme de gêne dans les interactions sociales où ils ne vont pas oser soutenir leur regard, même d'une image?
Oui, donc, la question, c'est sur la capacité des patients à soutenir ou non le regard et l'influence que ça. D'évidence, notre hypothèse, elle est, enfin, ici, on monte sur les aspects attentionnels, donc on essaie de voir ce qui se passe avant. Mais la conséquence, c'est que les patients regardent moins les gens dans les yeux. C'est ce qu'on tente d'observer. Et donc, au-delà du fait que c'est un déficit attentionnel, ça a des conséquences, et ça a potentiellement des conséquences massives sur les interactions avec autrui. Parce que bah, déjà, avoir quelqu'un qui vous regarde par les yeux, ça peut amener chez autrui à une réaction différente de celle qu'on a classiquement, où les conversations se font avec un contact visuel, mais aussi parce que, ce que je viens de tenter d'expliquer, les patients ont extrêmement d'informations, donc accentuent finalement leur déficit de connexion sociale. Si vous barrez toute l'information des yeux, et que, alors j'exagère, ils regardent quand même potentiellement les yeux à certains moments, mais si vous enlevez une bonne partie de l'information que vous pouvez avoir via le regard, vous privez d'une grande quantité d'informations pour déduire l'état de la personne en face et accéder à vos interactions sociales. Donc l'idée là-dessous, au-delà des aspects cognitifs, c'est qu'en regardant moins les yeux, d'une part, ils nuisent à leur relation sociale parce que la réaction d'autrui peut être plus négative, vous dire mais il est bizarre, il ne me regarde pas. Et d'autre part, ils ont extrêmement d'informations, ce qui peut accentuer leur difficulté à comprendre les émotions d'autrui.
Ma question, c'était plus, est-ce qu'on peut faire l'hypothèse que ce fait qu'il ne regarde pas les yeux, ce serait plus dû à une gêne d'un trouble de l'attention?
Ok, pardon. Oui, ok, pardon. On peut faire toutes les hypothèses possibles. Ici, oui, c'est vrai que c'est possible que ce soit quelque chose d'appris, ou enfin, en tout cas d'acquis, qui fait que le c'est pas ils ont les capacités, ce que vous voulez dire, c'est ils ont les capacités à avoir une exploration stratégique et efficace, mais ils refusent volontairement ou de manière contrôlée de regarder la zone oculaire. Quelque chose comme ça. Ouais.
C'est parce que ça leur provoque des émotions négatives de le regarder dans les yeux ou une gêne ou des choses comme ça.
Bon.
Et puis ils vont avoir en fait une espèce de stratégie d'évitement des yeux.
Oui, c'est une possibilité. Je pense que dans les troubles autistiques, c'est aussi une hypothèse, c'est-à-dire que ce n'est pas un trouble attentionnel. Quand je dis trouble attentionnel, je ne veux pas inférer qu'ils n'ont pas la capacité de le faire. Ce qu'on observe, c'est simplement qu'ils ne le font pas. Moi, je n'ai pas de certitude sur la raison pour laquelle ils ne le font pas. Et ça peut être quelque chose de volontaire, c'est-à-dire le fait que je ne vais pas regarder les yeux parce que ça me met mal à l'aise. Dans tous les cas, la conséquence de ça est la même, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'extrait pas l'information oculaire. Mais en effet, je pense qu'on peut quand même dire qu'avec l'indice d'entropie, qu'au-delà du fait qu'ils regardent moins les yeux, ils ont une approche moins stratégique de l'exploration et moins systématique de l'exploration des visages, au-delà de la zone oculaire. Même si une partie peut être expliquée, c'est vrai, par une gêne ou un évitement volontaire, il y a quand même des aspects cognitifs sous-jacents au traitement émotionnel qui semble jouer parce qu'ils ont des difficultés, enfin ils ont une exploration qui n'est pas aussi stratégique que ça ne devrait être. Et ça, ce n'est pas lié, à mon sens, uniquement au fait d'éviter la zone oculaire. Encore une fois, c'est une question, il y a plein d'interprétations à ces résultats possibles. L'important pour moi, enfin la chose la plus importante pour moi, c'est de se dire, une des raisons pour lesquelles ils regardent, ils déterminent, décodent moins bien les émotions, c'est une raison qui n'est pas liée directement au traitement de l'information émotionnelle, mais à l'identification des informations pertinentes. Et donc, en termes cliniques, bah, peut-être ça va. Ce qu'on peut imaginer, c'est les entraîner ou les encourager à regarder cette zone oculaire. Et là, votre remarque est importante parce que si c'est juste une gêne, il faut avoir des approches qui sont différentes que si c'est un trouble attentionnel. Ça, c'est vrai. Donc, dans les implications, on a des choses qui peuvent être différentes. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit réduire la gêne qu'ils ont ou est-ce qu'on doit booster leur capacité attentionnelle pour qu'ils aient une approche plus systématique? Ça, j'ai pas de réponse. Oui.
Ah. Et quoi, la consigne qu'on donne aux personnes?
Ce qu'on leur demande, c'est de vous allez voir un visage pendant 500 millisecondes et on va vous demander de déterminer l'émotion qui est présente sur ce visage.
Par rapport à soi-même ou par rapport à l'enfant?
Non, donc pas l'émotion que ça évoque, l'émotion qui est présente sur ce visage. L'émotion.
Et par rapport à ce que la personne est en train de. L'émotion de la personne est en train de montrer, c'est par rapport à la personne qui a.
Non, donc on ne leur dit pas quelqu'un va exprimer l'émotion vers vous, si c'est la question. Donc,
Parce que si l'interprétation, c'est en fait l'émotion étendue à la personne, ça peut être différent de si la leur regard fait quelque chose de neutre.
non, donc oui,
C'est une
donc
question, hein, c'est pas.
ouais, non, tout à fait. Donc, comme classiquement, alors il y a des études sur les décodages émotionnels qui explorent les regards orientés différents, mais donc il n'y a pas de. La réponse, c'est qu'il n'y a pas de consigne explicite sur cette personne adresse une émotion envers vous. C'est simplement, vous voyez une personne qui exprime l'émotion, dites-moi quelle émotion est présente sur ce visage. Mais en effet, on peut tout à fait imaginer que, et c'est ce qu'on peut observer aussi, c'est qu'il y a un ressenti sur cette émotion est dirigé vers moi. D'où la possibilité d'avoir une gêne et un évitement de.
Est-ce qu'il y a des paradigmes en fait, les émotions qui sont présentées sont
Ouais, exactement. Donc, on a différents types de paradigmes, mais il y a des paradigmes où le regard est orienté différemment, comme je viens de montrer. Et on a des paradigmes aussi où la personne est de trois quarts, et donc le regard est vers la.